Chartreusement Sport.
Chartreusement Sport.
L'actualité du sport animée par Jules.
Bonjour à tous, on se retrouve dans Chartreusement Sport aujourd'hui. Alors un numéro spécial hein, parce que on n'a pas pu du coup avoir aujourd'hui Madame Nathalie Roche hein, qui aurait voulu ou on aurait bien voulu l'avoir aujourd'hui, mais on va faire un numéro spécial, une émission spéciale consacrée aux trois personnes qui sont décédées ce week-end dans Chartreuse. Ils étaient partis faire du ski de randonnée et voilà, on va parler d'eux. Évidemment, parler un petit peu de l'histoire de ce sport, de ce ski de randonnée avec Hakim dans la dernière partie de l'émission. On sera en direct par téléphone avec monsieur Sébastien Parvillier dans la première partie de l'émission et puis avec Régis Brosse qui est donc un accompagnateur moyenne montagne en Chartreuse au sein de la Cartusiana. Voilà, on va commencer donc à donner quelques petites précisions sur ce terrible drame, hein, la mort de trois randonneurs à ski en Chartreuse samedi. Ça pose beaucoup de questions, alors même que la saison débute tout juste. Voilà, on va décrypter et analyser tout cela dans quelques instants avec Sébastien Parvillier, président de la Cartusiana. Mais quelques précisions. Donc, il s'agit de Fabrice Boutaz, à la dent de crawl tout d'abord, qui progressait seul samedi en direction du plateau sommital lorsqu'il a sauté des barres rocheuses en aval du pas de l'Oeil. Il est probable qu'il était emporté par une plaque avant qui pourrait s'être déclenchée sous son poids. Et puis, samedi toujours, hein, c'est également une plaque avant qui a surpris Jean-Luc Chenel et Olivier Justin de randonnée à ski qui étaient pourtant expérimentés. On va avoir en direct par téléphone Sébastien Parvillier, président de la Cartusiana, qui va nous éclairer sur certains points. Bonjour monsieur Parvillier.
Bonjour.
Alors on va vous poser d'abord cette première question très importante. Comment réagissez-vous après ce drame? J'imagine que ça doit être très difficile.
Ben oui, c'est toujours très triste. Un accident dont les conséquences, ben, c'est des décès, ben, c'est toujours regrettable. Après, tous les montagnards ben, se sentent concernés par ce genre de drame, quoi. Mmh. Surtout quand ça se passe à proximité, hein, sur des endroits qu'on fréquente régulièrement.
Alors l'ambiance, j'imagine qu'en Chartreuse, on est triste, il y a vraiment un sentiment de regret, c'est vraiment quelque chose qui peut être empêché, mais c'est vrai que c'est quand même toujours très très difficile de perdre des personnes qui en plus étaient attachées à leur sport.
Oui, c'est sûr hein, que ben, un accident, il y a des choses qui sont qu'on peut anticiper, il y a des choses qu'on peut contrôler, mais après de toute façon ben, un accident, ça reste un accident, c'est la montagne. Il y a toujours une part de risque, hein, même si on prend toutes les précautions nécessaires, il restera toujours une part de risque, hein, c'est indéniable, quoi.
Alors avec cet accident, est-ce que vous allez prendre des mesures de sécurité avec la Cartusiana notamment?
Oui, mais de toute façon, nous, on s'attache toujours à faire évoluer nos clients en sécurité. Déjà, ben, on évite de s'engager sur des terrains qui sont à risque. Et si jamais on a un groupe qui a le niveau technique et physique suffisant pour aller sur ce type de secteur, ben on les équipera du matériel de sécurité qui est indispensable, hein, à savoir un DVA, une pelle et une sonde pour chaque participant. Et avant la pratique, hein, un minimum d'initiation pour utiliser ce matériel si c'est nécessaire. Hein.
Voilà. On rappelle que vous êtes le bureau de montagne hein, de Chartreuse.
Oui, tout à fait. Oui.
Il y a eu beaucoup d'accidents en montagne avant ces trois personnes ce week-end.
Ce week-end, vous voulez dire sur d'autres massifs?
Oui, exact.
D'accord. Oui, ben, j'ai pas suivi toute l'actualité, je vous avoue. Mais ouais. Bon, après, ça c'est aussi une période que je dirais qui est à risque. C'est les premières chutes de neige conséquentes et ben, tout le monde piaffe un petit peu. Tout le monde est pressé de chausser les skis pour aller taper la poudreuse. Et en particulier quand il fait beau, ben, les gens sont une sorte de sentiment d'euphorie. Et ça, c'est souvent, ça a souvent des conséquences, quoi, je veux dire.
Ouais, je voulais dire hein, que ce week-end il y a eu cet accident, mais il y a eu beaucoup beaucoup d'accidents aussi en Chartreuse ces dernières années, hein, avec notamment des randonneurs, des skieurs de randonnée. C'est vrai que
la Chartreuse, hein, c'est un massif qui est quand même assez accidentogène.
Oui.
Malgré que ce soit pas un massif qui soit très haut en altitude. Mmh. Il y a un relief qui est quand même assez sévère, hein, beaucoup de falaises, beaucoup de pentes raides, et même souvent des pentes qui paraissent assez sécurites, mais qui sont surplombées par des pentes à risque, hein, donc même si on est sur une pente qui paraît anodine, il y a tout un environnement, hein, qui peut se révéler dangereux, hein.
Donc justement, d'après vous, est-ce que la Chartreuse était un massif dangereux, en tout cas pour ceux qui s'y aventurent? Est-ce qu'il est même plus dangereux que les autres?
Je pense pas qu'il soit plus dangereux. Mais finalement, le fait que ça soit un massif qui soit entouré de gros bassins urbains, il y a quand même une grosse fréquentation. Les gens ont la sensation d'être sur un secteur proximité, un secteur qu'ils connaissent bien. Et c'est souvent quand on est un peu trop en confiance que l'accident survient, quoi.
Oui, c'est vrai que il faut prendre des mesures de sécurité, mais c'est vrai que vous êtes bien placé aussi pour donner des indications, hein. Je vous rappelle, président de la Curtuziana, qui est quand même le bureau qui s'occupe de toutes ces randonnées, qui organise même des événements. Est-ce qu'il y a des événements en plus cette année après cet accident, qui va peut-être redonner confiance aux explorateurs de la Chartreuse, parce qu'ils seront peut-être accompagnés des accompagnateurs de moyenne montagne?
Alors, nous, de toute façon, là, déjà sur la période d'hiver, on va encadrer beaucoup de sorties en montagne. On a un programme pendant les vacances de Noël, là, qui est en direction du grand public, on va dire, hein, des individuels, hein. On va essayer de regrouper des personnes pour les emmener en montagne. Après, sur l'hiver, il va y avoir un certain nombre d'événements, hein, qui sont souvent conviviaux, hein, notamment la passe montagne, hein, qui a lieu dans les Entremonts fin janvier. Je crois qu'il y aura certainement une nouvelle édition du Festival Nordique, hein, je suis pas sûr. Nous, on est aussi aptes à former le public, hein. On est un certain nombre d'accompagnateurs en montagne du bureau de Curtuziana, qui sommes labellisés pour des formations ANENA. Donc c'est vraiment des formations qui sont à la pointe des connaissances, hein, sur le sauvetage en avalanche et sur la prévention du risque. Nous, on invite le public à se former. On peut aider les pratiquants à acquérir les techniques.
Oui, il y a de la formation aussi.
Ouais. Ça, je pense que c'est primordial, hein, la formation sur l'utilisation du matériel, et puis aussi sur la prévention du risque, hein, parce que quand on utilise le matériel de sauvetage en avalanche, hein, c'est que on est déjà sur une phase d'accident. Donc même si la gestion du secours elle est efficace et performante, il y a toujours un risque très important. À partir du moment où on est pris par une avalanche, on pourrait dire que c'est déjà trop tard, mais enfin le risque vital, il est certainement engagé, quoi.
On va finir cette belle interview par des mots d'espoir. On espère que ça va se tranquilliser.
Oui, bah écoutez, là actuellement, là, le manteau neigeux, il est déjà un peu stabilisé, hein, le risque maintenant il est présent aujourd'hui, là, plutôt sur des faces ombragées, des faces nord semitales. Tous les autres secteurs, là, sont plutôt sécurisés. Ceci dit, on attend quand même de nouvelles chutes de neige pour les week-ends. Donc le risque va à nouveau être accru, quoi. Donc il faudra redoubler de vigilance à partir du week-end prochain.
Eh ben merci beaucoup monsieur le président d'avoir été avec nous en direct, et on vous souhaite un peu plus de calme pour notre belle vallée de Chartreuse. Merci.
Au revoir.
Voilà, c'était les mots de Monsieur Sébastien Parvillier, président de la Cartusiana. Alors n'oublie pas non plus l'actualité sportive de nos clubs locaux. Il y avait juste le basket qui jouait sur le parquet ce week-end parce que les autres rencontres ont été annulées avec les intempéries et notamment la neige qui est tombée sur notre massif et sur notre territoire. Les seniors, un garçon du Chartreuse Basket Club, ont battu Voiron 80-68. Les seniors 2, eux, sont venus à bout de Fontaine 56-47. Les seniors filles sont allées s'imposer à Saint-Pierre-de-Bressieux 60-49. Les U17 féminines ont perdu contre Marcillol-Pajaille 69-45. Les U15 masculins 2 battent les locaux du jour Avenir à Aoste 83-46. Les U13 masculins 2 ont été battus à Rive-Renage 86-13. Et puis on finit ce journal des sports avec le reportage de la semaine dernière, justement, à bien dire vrai, sur les Benjamines U13 féminines 1, qui poursuivent sur leur lancée en déplacement en écrasant Estrablin, Pont-Évêque, 80-21. Voilà, c'est fini pour ce journal des sports. Donc, les basketteurs ont fait quand même de très très bons résultats dans l'ensemble. La semaine prochaine, il y aura plus de matchs, plus de rencontres. Donc, évidemment, plus de résultats à vous transmettre. C'est la fin de cette première mi-temps. On a eu des messages d'espoir. On a eu des explications avec Monsieur Sébastien Parvillier. On se retrouve dans la deuxième mi-temps de l'émission avec Régis Brosse, hein, qui est accompagnateur en moyenne montagne, qui va nous parler peut-être un petit peu plus technique. Et on poursuivra avec la rubrique d'Hakim sur le ski de rando et aussi évidemment comment se préparer à aller faire une sortie comme celle-ci, puisqu'on a vu que c'était très dangereux. On va marquer une petite pause avec Johnny Hallyday, Allumer le feu, décédé aujourd'hui. On rend un grand hommage à Johnny et puis on va l'écouter. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.
Barrage, sortir le loup de sa cage. étincelle, et d'amour, et pour allumer le feu, et faire danser les diables et les dieux.
Nous revoilà après cet extrait de Johnny Hallyday, Allumer le feu, dans la deuxième partie de Chartreusement Sport. On va être donc en direct dans quelques instants avec Régis Bros, accompagnateur Moyenne Montagne, la Cartusiana, et puis on finira avec la rubrique d'Hakim. On est maintenant avec quelqu'un qui s'y connaît très très bien techniquement, c'est Régis Bros. Bonjour Régis.
Oui, bonjour.
Alors, on le rappelle, vous êtes accompagnateur moyenne montagne, hein, c'est ça, vous, votre métier, ça consiste à accompagner les gens s'aventurer dans la montagne.
Voilà, exactement. Donc, en rando l'été, printemps, automne, et en raquette l'hiver.
Alors, après cette disparition, comment vous réagissez, hein? On a posé un petit peu la même question au président de la Cartusiana. C'est vrai que c'est quand même très, très, très difficile d'apprendre que trois personnes qui aimaient ce métier, qui aimaient ce sport, nous ont quittés.
Oui, bah voilà, oui, c'est toujours le même sentiment quand on apprend des choses comme ça, là, des accidents qui se produisent voilà, si près de chez nous, dans des endroits qu'on connaît si bien, voilà, avec des personnes voilà, qui sont passionnées de montagne et de nature, bah, c'est toujours, voilà, triste, mais bon, ça rappelle combien toujours la montagne est dangereuse, quoi. Voilà, c'est toujours le même... La même chose, particulièrement en début de saison, comme ça, quand c'est les premières chutes de neige.
Même si ces deux personnes décédées étaient quand même, une des deux personnes décédées étaient quand même des connaisseurs, des habitués, ça prouve quand même que ça suffit pas de s'y aventurer comme ça, il faut toujours s'informer des conditions.
Oui, bah après, je sais pas, voilà, si ils avaient pris des informations, je pense, j'imagine, mais je sais pas.
Oui.
Après, c'est vrai qu'il faut, voilà, toujours se renseigner le plus possible, que ce soit au niveau de la météo, donc auprès de Météo France, site internet ou par numéro de téléphone, et puis après aussi bien prendre connaissance des conditions d'enneigement et de risque d'avalanche. Il y a un bulletin des risques d'avalanche qui est mis par Météo France. Donc il faut aussi prendre connaissance, donc c'est assez détaillé, hein, ça explique les risques d'avalanche, donc il y a une numérotation de 1 à 5, c'est assez détaillé suivant les versants, parce que donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le risque d'avalanche est pas identique quand on se trouve d'un côté ou de l'autre d'un versant, d'un col notamment, ou d'un sommet, voilà. Donc ça, c'est des informations qui sont très importantes à avoir avant de partir, et puis voilà, se renseigner le plus possible sur les conditions locales d'enneigement et le risque d'avalanche.
Alors, ouais, peut-être qu'ils avaient effectivement déjà pris connaissance des informations, mais c'est vrai qu'il peut y avoir autre chose sur le terrain. On peut pas être sûr à 100% d'une condition. C'est vraiment sur le terrain qu'on peut évaluer, et voilà, on peut pas être sûr vraiment à 100% de ce qui va se passer et du danger.
Oui, non, de toute façon, les estimations de risque qui sont émises par Météo France, ben voilà, par définition, c'est des estimations. Et après, ce qu'il faut comprendre, c'est que le terrain est particulier, crée des conditions particulières. À savoir que, par exemple, une petite crête à un endroit, un changement, ce qu'on appelle un micro-relief, c'est une espèce de petite barre rocheuse dans une pente, Par exemple, ça, des petites choses comme ça, ça peut créer, ça peut favoriser la création de ce qu'on appelle les plaques à vent. Et du coup, une plaque à vent, c'est un phénomène avalancheux qui est très dangereux parce qu'il n'est pas décelable par avance. Mmh. On ne peut pas visuellement voir que la plaque à vent est présente.
Oui, exact. Et c'est ce qu'a déclaré. C'est ce qu'a déclaré Dominique Létang, hein, directeur de l'ANENA et ancien secouriste au PSG HM de l'Isère. Il a déclaré que les photos donc, montrent une cassure linéaire qui correspond à la rupture d'une plaque à vent.
Voilà, donc là, ça veut dire qu'en fait, donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que si on remonte un petit peu le fil, donc le vendredi, il y a eu une forte chute de neige qui a duré toute la journée. Donc on estime, moi c'est ce que j'ai vu, moi j'étais pas présent, mais à peu près une cinquantaine de centimètres, voilà, 1800 mètres, 2000 mètres d'altitude. Et ce qui se passe en général, c'est que ces chutes de neige, elles sont accompagnées de vent mmh. assez fort, surtout en fin d'épisode, quand la perturbation passe, on a des vents par exemple de secteur nord. Donc le vent vient du nord et souffle vers le sud. Alors ce qui se passe, c'est que le vent va transporter la neige, toute la neige qui se trouve sur les secteurs nord va être transportée par le vent. Et puis ensuite, cette neige, elle va passer la crête. Mmh. Et puis quand elle va être derrière la crête, elle va se retrouver à l'abri du vent. Et cette neige donc qui a été roulée, qui a été un petit peu cassée, les flocons de neige, ils ont été cassés. Donc c'est des grains qui sont particuliers. Donc ces grains-là, à l'abri du vent, ils vont se redéposer sur le versant opposé, donc versant sud. Et là, ils vont se compacter, c'est sous une forme de plaque qui est solide mais très friable. C'est-à-dire qu'elle va tenir, avoir une cohésion pour son propre poids, enfin à condition qu'il ne soit pas trop lourd d'ailleurs, mais enfin voilà, elle va avoir une cohésion suffisante pour tenir. Par contre, sitôt qu'il va y avoir une surcharge dessus, un randonneur ou une chute de corniche par exemple, ce qui est souvent mmh. le cas en haute montagne, et bien là par contre la plaque va céder et, mmh. Et du coup va couler sous forme d'avalanche. Ah, donc c'est vraiment les avalanches les plus difficiles à déceler et donc les plus dangereuses, ce sont les avalanches de plaques à vent. Et là, l'information qu'il faut bien avoir en tête, c'est est-ce qu'il y a eu du vent dans les jours qui ont précédé ma sortie. Voilà, c'est ça qu'il faut vraiment retenir, c'est la présence du vent avant. Voilà. Avant la sortie.
Avec le phénomène dont a été victime Fabrice Boutaz, c'est effectivement la rupture de cette plaque avant. Il y a eu aussi cette avalanche où a été enseveli Jean-Luc Chesnel et Olivier Justin, qui nous ont quittés également. C'est vrai qu'après, c'est quand même très difficile d'aller les chercher. Il y a eu sûrement des recherches qui ont été faites.
Ouais, bah, ma connaissance, il y a eu des secours qui ont été déclenchés dès le samedi. Je crois que c'est les familles qui ont prévenu.
Oui, il y a eu des recherches, effectivement.
Voilà, que les deux personnes ne revenaient pas. Après, là, dans ces cas-là, ce qui est important, c'est de prévenir les proches, les familles, prévenir où est-ce qu'on va aller, éventuellement où est-ce qu'on va se garer, quel sommet on compte faire, quel itinéraire on compte emprunter. Parce que là, en cas de recherche, chaque minute compte et chaque information a son importance. Mmh. C'est vrai que si les recherches se développent sur un secteur où les personnes ne se trouvent pas, c'est un peu du temps perdu. Maintenant, je sais pas du tout ce qui s'est passé dans ce cas-là et je dis pas que c'est ce qui s'est passé. Je dis simplement que plus les secours ont des informations précises, plus ils peuvent être efficaces et rapides. Mmh.
Plus il y aura d'efficacité sur le terrain après. Voilà. Mais Monsieur Régis Brosse, comment doit-on s'équiper pour partir en randonnée? Alors ça peut être du ski de randonnée ou la randonnée générale. Il y a des équipements précis. Et il faut vraiment bien s'équiper pour partir et s'aventurer.
Ouais. Déjà en termes d'équipement de sécurité l'hiver, il y a un peu la trilogie obligatoire et indispensable et obligatoire. Donc c'est l'équipement DVA PL sonde. Donc le DVA, c'est le dispositif pour les victimes d'avalanche. Donc c'est un appareil émetteur-récepteur, donc qui envoie des signaux, des ondes, et qui peut également la recevoir. Tous les appareils émettent à la même fréquence, si bien que tous les appareils, quelle que soit la marque, en fait, peut capter le signal d'un autre appareil. Donc ça, c'est très important, parce que donc chaque randonneur, quel que soit son appareil,
il peut capter.
Est sûr et certain de pouvoir avoir son signal reçu par un autre appareil. Voilà. Alors donc cet appareil, il faut l'avoir sur soi, il faut en avoir vérifié l'état de fonctionnement la veille, avoir vérifié l'état de batterie la veille, et avoir testé l'appareil le jour même avec la personne avec qui on va partir. Donc on teste ce qu'on appelle en émission et en réception, c'est-à-dire au moment où on est en émission quand on le porte sur nous, et là notre appareil émet le signal. Et après, on va le passer ce qu'on appelle en réception, au moment où on va chercher une victime. Mmh. À ce moment-là, on va mettre en réception pour recevoir le signal de l'autre appareil. Ah. Voilà, donc ça, c'est un test qui doit être fait systématiquement avant de partir.
Avant de partir.
Voilà, pour s'assurer que vraiment les appareils fonctionnent. Il ne s'agit pas d'avoir un appareil... Enfin, avoir l'appareil, c'est bien, mais il faut s'assurer qu'il fonctionne. Voilà. Et que celui du copain ou du collègue avec qui on est va fonctionner également. Donc on fait tous ces tests au niveau de l'appareil. Et après on s'équipe également donc d'une pelle et d'une sonde. Voilà, une sonde suffisamment grande, donc en général qui est pliable, hein, suffisamment grande. On préconise 2,40 m en général. Et puis une pelle à manche télescopique pour pouvoir que ça prenne pas trop de place. Mais enfin voilà. Il faut trouver la personne, mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, avec les appareils, le temps pour trouver la victime, les appareils, comme il y a des avancées technologiques, sont quand même de plus en plus performants. On retrouve de plus en plus vite la victime. Par contre, le temps de pelletage, le temps qu'on met à creuser la neige, ça, celui-là, n'a pas changé. Et ça prend un temps énorme. Il faut s'imaginer qu'il peut y avoir des grandes quantités de neige, de la neige très compacte, des blocs de neige, voire des blocs de glace. Donc, il faut être très, très, très performant dans la recherche parce que ça prend du temps. Et surtout, ne pas négliger la pelle, ne pas négliger la sonde qui sont des éléments aussi importants, quoi.
Alors, toutes vos explications vont être vraiment de bons conseils pour ceux qui souhaiteraient s'aventurer en Chartreuse ou même dans notre massif, que les gens vont faire plus attention, vont
oui,
peut-être...
Voilà, par contre, c'est de nouveau un rappel, mais comme il y en a malheureusement très souvent, toujours de l'appel à la prudence. Alors, c'est sûr que quand il y a les chutes de neige, surtout quand c'est les premières de la saison, tout le monde a envie d'aller tester la neige, d'aller se défouler un petit peu dans la neige. Mais après, voilà, c'est toujours de la prudence, toujours se renseigner, s'informer, partir équipé, éventuellement connaître les secteurs, regarder... les informations, il existe aussi des sites internet Skitour et Come to Camp où on peut avoir des informations sur d'autres randonneurs, d'autres skieurs qui ont fait les sorties la veille ou l'avant-veille et qui ont pu constater les choses sur le terrain. Donc ça, c'est aussi des informations récentes qui sont bonnes à obtenir avant de partir.
Mais c'est vrai qu'il faut faire très attention à toutes les explications qu'on donne parce que c'est quand même un sujet tabou où c'est très très précis.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il faut, voilà, si on souhaite donner des informations, c'est bien. Après, il faut que les informations elles soient fiables. Et... Mais bon, après voilà, quand on a une information d'un site internet, c'est toujours à prendre un petit peu avec pincette. Oui. On ne sait pas qui l'a diffusé. Ouais. Mais voilà, ça enrichit un peu la collecte qu'on a au départ et ça donne une info supplémentaire. On ne peut pas prendre ça forcément comme étant garanti, mais c'est une info supplémentaire.
Eh bien, merci beaucoup, Régis Brosse, d'avoir été en direct avec nous.
Eh bien, je vous en prie.
Merci,
bonne fin de journée.
Merci, au revoir. Voilà, ça a été de très bons conseils et ça va peut-être donner des idées à Hakim pour sa rubrique. Il nous a préparé quelque chose de quand même très intéressant. Alors, l'histoire, Hakim, du ski de randonnée.
Déjà, le ski de randonnée est en fait à la base partie du ski alpin. En fait, le ski alpin et de randonnée étaient... au départ les mêmes, quasiment, mais il est tout à fait difficile, enfin il est difficile de définir précisément l'histoire de ce sport, puisque l'homme skie depuis environ 4000 ans.
Ah oui, ça fait quand même longtemps, donc on peut pas avoir forcément d'informations précises, c'est ça?
C'est les seules informations qu'on a à part assez récemment. Donc le premier raid de contenu à ski connu qui a lieu du 13 au 23 janvier 1897. Avant on ne sait rien à part grâce aux
peintures. Oui, avant c'était pas très précis effectivement.
À part grâce aux peintures rupestres de Norvège.
Alors, les précautions Hakim, qu'il faut prendre, elle nous a été quand même bien expliquée par Régis Bros. L'histoire de ce sport, ça remonte depuis très longtemps. Mais est-ce que beaucoup de personnes pratiquent ce ski de randonnée ?
Déjà, il faut le savoir, pour pouvoir pratiquer le ski de randonnée, il faut avoir un très bon oui. niveau de ski alpin.
Oui, effectivement, il faut être connaisseur.
Et en ski alpin, il faut beaucoup d'efforts. Et donc déjà, le ski alpin, ça demande beaucoup d'efforts, mais le ski de randonnée encore plus, parce que le ski de randonnée allie la randonnée à ski et en plus le ski alpin. Donc c'est assez physique.
Effectivement.
Et tu m'as demandé au niveau de la prévention des risques, comme nous en avait parlé
Monsieur Régis Bros.
Mmh, tout à fait. Et ben, c'est quand même difficile la prévention de ce genre de risque, parce que c'est lié à la connaissance de la pratique du sport, des sports de montagne. Donc une connaissance très approfondie des mécanismes accidentels, dont les avalanches. Franchement, c'est vraiment difficile de prévoir ce genre de cas. Ces trois personnes n'ont vraiment pas eu de chance, parce que les premiers, c'était la première neige de la saison. Ils ont été immédiatement attirés par cela, parce qu'ils sont fans de la neige, entre guillemets. Et donc, immédiatement, ça a créé un danger, parce que les premières neiges sont toujours, entre guillemets, les plus dangereuses de la saison.
Toi, tu fais du ski de randonnée aussi, t'es fan, hein ?
Je fais pas du ski de randonnée, mais ça m'arrive de faire du ski de fond.
Mais tu m'as déjà dit que t'en avais déjà fait quand même du ski de randonnée.
Oui, une fois. Mais c'est même pour ça que je peux te dire que, franchement, c'est très difficile. C'est du ski alpin, du ski et de la randonnée. Déjà la randonnée, ça fatigue, mais le ski alpin aussi. Et la fusion des deux demande un statut physique qu'à cette époque je n'avais quasiment pas, malgré le fait que je faisais beaucoup de sport.
Mais t'en as fait déjà une fois, hein, c'est ça, du ski de randonnée, mais t'en fais pas souvent. Mais la première impression que ça t'a fait, c'était quand même très physique. Il faut beaucoup pousser, il y a des chemins accidentés, c'est pas pareil que du ski de fond, c'est pas pareil que du ski alpin.
C'est un petit peu une fusion des deux et à la fois très différent. C'est à la fois un sport qui, quand on s'intéresse à la neige et aux montagnes, est vraiment délicieux, entre guillemets, à accomplir la montée d'un sommet en ski de rando, et c'est vraiment magnifique. Tout comme la redescente, mais c'est vraiment très physique et surtout très dangereux.
Le hors-piste.
Le hors-piste.
En plus, les chemins de ski de randonnée sont dangereux. En plus, parce qu'on emprunte des chemins hors-piste.
Et voilà. Le hors-piste.
Et que le hors-piste, qui dit plus pas de piste codée, pas de piste tracée, dit danger, quoi.
Parce que, par exemple, l'année dernière, avec mon collège, on est allé faire du ski alpin à la Plagne, et on a fait du hors-piste. Et il y aurait pu avoir un risque d'avalanche à l'endroit là où on est allé, parce qu'il y avait à peu près 50 cm de poudreuse.
Ah oui.
Et du coup, suffisait juste qu'il y ait une formation de plaque avant, comme disait très bien Régis. Monsieur Régis, c'est très dangereux, les personnes qui aiment bien leur piste doivent toujours se munir de la trilogie, comme disait Monsieur Régis.
Voilà. Pour finir ta chronique, Hakim, tu m'as dit tout à l'heure que tu allais me parler aussi de l'histoire, mais maintenant. Du ski de randonnée, c'est vrai que maintenant ça a vraiment vraiment changé par rapport aux dernières années.
Oui, c'est que maintenant, avec le nouveau matériel et de nouveaux appareils de détection. Les personnes se relâchent plus et font moins attention au danger.
De nouveaux skis, de nouveaux matériaux. On peut skier vraiment différemment. C'est très moderne.
Oui, et du coup, puisque les personnes ont de plus en plus confiance en leur matériel, ça devient de plus en plus dangereux. Mmh. Alors que normalement, ça devrait être exactement le contraire. Les nouveaux matériaux de ski, de rando, par exemple, sont faits pour baisser le risque, et pourtant, ils les augmentent.
Voilà.
Parce que les personnes veulent tenter de prendre plus de risques parce qu'ils ont du meilleur matériel.
Merci beaucoup, Hakim, pour cette rubrique. C'est la fin de cette émission. Voilà, merci à Fabien qui était en régie, notre technicien qui est toujours présent au rendez-vous et qui est vraiment, vraiment super. On arrive à faire plein de choses. La semaine prochaine, on se retrouve évidemment, même horaire, mercredi à 16h. On sera avec les deux présidents de la Cartusienne, la plus vieille association sportive de Chartreuse. Et puis encore plein de surprises dans Chartreuse Mon Sport. La saison d'hiver va commencer. Qui dit hiver dit ski, dit ski de randonnée, effectivement on en a parlé, dit raquette, dit ski de fond, dit neige, et on va s'éclater. Allez, je vous dis bonne fin de journée sur les antennes de Radio Couleur Chartreuse, et à la semaine prochaine. Merci.